Jusqu'au week-end du 20 août, je vous propose de vous rafraîchir la mémoire en vous offrant quelques-unes de vos émissions préférées issues de nos archives.
La marche du monde. Valérie Nivelon.
Bienvenue dans votre émission consacrée chaque semaine aux femmes et aux hommes, témoins et acteurs de l'histoire. L'homme ne peut se libérer que si la femme est libre. C'est la condition nécessaire à la révolution telle qu'elle a été pensée par le capitaine Sankara et son fidèle ami d'enfance, l'intellectuel Valère Sommé. Lorsque les deux hommes se retrouvent au sein du CNR, le Conseil national de la Révolution, issu du coup d'État du 4 août 1983, c'est pour mettre en œuvre un changement radical de la société. La Haute Volta coloniale est rebaptisée Burkina Faso, pays des hommes intègres. C'est une deuxième indépendance, radicale et insolente. Le camarade président Thomas Sankara annonce une société nouvelle débarrassée de l'injustice sociale et de la domination impérialiste. Un discours provocateur qui éclate à la face du monde lors de l'Assemblée générale de l'ONU du 4 octobre 1984.
Je viens à cette 39e session vous parler au nom d'un peuple qui, sur la terre de ses ancêtres, a choisi dorénavant de s'affirmer et de s'assumer dans son histoire, dans ses aspects positifs comme dans ses aspects négatifs, sans complexe aucun. Permettez-moi, vous qui m'écoutez, que je le dise, je ne parle pas seulement au nom du Burkina Faso, tant aimé. Je parle au nom des femmes du monde entier qui souffrent d'un système d'exploitation imposé par les mâles. En ce qui nous concerne, nous sommes prêts à accueillir toutes les suggestions du monde entier nous permettant de parvenir à l'épanouissement total de la femme burkinabé. En retour, nous donnons en partage à tous les pays l'expérience positive que nous entreprenons avec des femmes désormais présentes à tous les échelons de l'appareil d'État et de la vie sociale au Burkina Faso.
Les femmes au cœur de la révolution, c'est le défi lancé par Sankara et c'est une des premières priorités du DOP, le discours d'orientation politique rédigé par Valère Sommé.
C'est par les moyens économiques que les hommes oppriment les femmes. Ce sont les hommes qui travaillent, enfin, en général. Et les femmes sont dépendantes donc économiquement de l'homme. Donc si la femme acquiert une certaine indépendance économique, ça c'est la voie qui permet de créer les conditions de son émancipation.
Dans le programme politique du Conseil national de la Révolution burkinabé, l'indépendance économique des femmes est intimement liée à l'évolution des mentalités.
Les mentalités avaient besoin d'être réformées. Nous, nos traditions n'ont pas que du positif. Et c'est pour ça que sous la Révolution, on a incité beaucoup des actions d'éclat qui ont été posées pour frapper l'imagination en fait. Par exemple, le marché masculin, une journée où les femmes ne vont pas marcher sur les hommes qui vont marcher, et le salaire minimum vital qu'on préconisait de prélever sur le salaire des hommes qui travaillent. Donc on contraignait de prélever un minimum sur le salaire des hommes pour le verser à la femme qui reste à la maison. Bon, ça, c'est des actions d'éclat.
Pour mettre en œuvre ces réformes, le Conseil national de la Révolution s'appuie sur ceux qui jusque-là n'avaient pas droit au chapitre, notamment les jeunes, largement investis dans les CDR, les comités de défense de la Révolution, comme a pu l'observer Roger Nkiéma, alors directeur de la Radio Nationale.
On ne pouvait pas critiquer ces nouvelles idées. Les gens, ils étaient là, il y a peu qui réagissaient aux interrogations des autorités. Parce que quand même, il y avait cette nouvelle hantise, les nouvelles prescriptions. Il y avait les CDR un peu partout. Eux, on disait ouvertement, mais il y a Sankara, et puis il y a les CDR.
Le peuple aime la liberté. Le peuple aime la démocratie. Par conséquent, le peuple s'attaquera à tous les ennemis. Ce sont ceux qui sont à l'intérieur, ce sont ceux qui sont à l'extérieur. Je voudrais vous demander, est-ce que vous aimez ces ennemis du peuple, oui ou non? Est-ce que vous les aimez? Alors il faut les combattre. Est-ce que vous les combattrez? Est-ce que vous les combattrez? En avant pour le combat.
Au coup d'État succèdent les coups d'éclat. Thomas Sankara nomme 5 femmes ministres et 10 hauts commissaires, dont notre grand témoin, Germaine Pitruipa, la seule femme à avoir osé interpeller Sankara en public. Connue pour son tempérament de feu et sa ferveur militante, Germaine Pitruipa met en œuvre les chantiers de la Révolution dans la province du Kuritenga, située au centre-est du Burkina, de 1984 à 1986.
C'est le choc des verres ou quoi ?
Alors, on trinque à nos retrouvailles des anciens CDR, des anciens collaborateurs et surtout des gens qui sont restés fidèles à la mémoire de celui qui a été pour nous.
L'ancien commissaire.
Voilà, l'ancien haut commissaire et celui qui a été pour nous une référence.
Vraiment, ça fut un très beau temps, inoubliable. Inoubliable parce que les gens s'aimaient beaucoup, les gens s'entraidaient beaucoup, les gens aimaient travailler. Grâce à la Révolution, ça se fut un beau temps.
Je suis heureuse d'être de retour. Et surtout vous dire merci. Merci pour ce que vous avez fait. Voilà. Moi, j'ai quitté mon bureau le matin. Bon, j'arrivais à mon bureau le matin à 8h. Bon, 8h30, ça dépend. Le temps de jeter un coup d'œil sur les documents qui m'étaient soumis. Et puis, je ressortais. Bon, et comme... J'avais pas besoin de chauffeur. Je conduisais moi-même ma voiture de service. Je faisais le tour des chantiers. Et à un moment donné, je me consacrais à un chantier pour au moins apporter ma contribution. Et quand je voyais que la mobilisation n'était pas efficiente, je refaisais le tour pour encourager ceux qui sont déjà sur certains chantiers, puis rester pour apporter mon concours. Participer jusqu'à midi. Souvent, je rentrais pour aller directement déjeuner à la résidence. Et je ne restais pas dans le bureau. Et ça, je pense que ça m'a aidé à ne pas confondre diriger une province et faire de l'administratif. En tout cas, je vois la santé. Heureusement que la santé nous a préservés. Et on a une pensée pour ceux qui ont disparu et qui, malheureusement, ne peuvent pas se joindre à nous. Et pourtant, ils se sont sacrifiés pour ce pays-là.
À l'époque, tout le monde aimait Sankara à 100%. Et les jeunes ont initié la chanson « Allons de Navant » en disant « Allons de Navant, de Navant, à Sankara, Thomas Sankara, qu'il soit toujours le président. Nous, Burkinabés, luttons toujours à Sankara. » Thomas Sankara, qu'il soit toujours le président. Cette chanson-là, en ce moment, tout le monde était concentré à se sacrifier pour le développement national. Pas la main tendue, pour le développement national. Les CDR contrôlent partout, les gens s'unissaient pour construire les villas, les pharmacies, tout le monde travaillait pour le moment. C'était pas forcé, on ne force pas les gens. Les gens partaient volontairement pour travailler, pour le développement national.
Ici, à Kupela, chef-lieu du Kuritenga, l'ordre social est bouleversé. L'autorité coutumière du chef Mossi est remise en question et les résistances sociales sont nombreuses. Mais Germaine Pitruipa réussit à fédérer les CDR autour d'elle. Son exemplarité et son courage l'emportent rapidement sur les préjugés. En application du mot d'ordre « compter sur ses propres forces », elle ne compte que sur elle-même et dresse un état des lieux.
Ici, à l'époque, à Kupela, comme dans le reste du Burkina, les femmes sont confrontées aux mêmes difficultés, c'est-à-dire des problèmes de travaux ménagers, le problème d'éducation des enfants, le problème de leur propre émancipation et de leur participation à la révolution. Donc, ce n'était pas spécifique à Kupela ni au Kuritenga. Par contre, ce qui était spécifique, c'est que si on fait un petit tour, on voit que la femme du Kuritenga est beaucoup plus dynamique dans le commerce, plus que dans certaines régions. Quelle a été ma priorité ? C'est de canaliser ce dynamisme-là. Et donc, le CNR avait initié des GIE, des groupements d'intérêts économiques dans le commerce, dans le tissage. Et les femmes au Kuritenga m'ont surprise positivement. J'ai été fière de savoir qu'elles sont capables justement de mettre ce dynamisme-là au service de la révolution et au service de ce que j'incarnais pour elles.
Une expérience qui a changé le destin de Marie-Thérèse Sandouidi.
J'ai été la première femme à être maire de Kupela de 1995 en 1997. Mais j'ai fait ce que je pouvais faire. Et aujourd'hui, ceux qui veulent la vérité vous diront, elle a été femme, mais elle a travaillé. Et Germaine m'a donné l'exemple. Germaine m'a fait savoir que quand une femme est responsabilisée, il faut qu'elle travaille. Bon, à son temps, demander à une femme de faire les parpaings, c'était quand même nouveau. Nous, nous avons trouvé qu'elle était méchante. Parce que pour moi, je me disais qu'elle pouvait demander aux hommes là, de faire les parpaings, mais pas me demander à moi aussi de faire les parpaings. Et là, je n'étais pas contente. Mais je l'ai prouvé que je pouvais aussi faire. Et j'ai fait, j'ai réussi, j'ai fait les parpaings là. Germaine m'a formée, parce que Germaine m'a amenée à faire des choses que je n'imaginais pas faire. Hein? J'ai appris à faire les parpaings. C'est une formation. Puisque elle-même, elle est là. Quand elle te dit de faire, et elle-même, elle fait, tu es obligée de faire. Parce qu'elle a voulu que les femmes se retrouvent, que les femmes s'unissent, que les femmes travaillent en équipe, que les femmes, en tout cas, travaillent au lieu de laisser leur conjoint seul travailler. C'est ce qu'elle disait. Chaque femme peut faire quelque chose et amener quelque chose dans la famille.
Il n'est pas normal que des hommes disent « mon argent, c'est mon argent ». Un homme qui se marie ne peut pas dire que ce qu'il gagne lui appartient à lui et à lui seul. Il a gagné avec toutes les personnes qui l'ont aidé à travailler. Il n'est pas normal que des maris qui gagnent des salaires élevés se retrouvent avec des femmes qui sont totalement dans le dénuement.
Dès la première rencontre qu'il organise avec les femmes le 15 juillet 1984, Sankara préconise la création d'une organisation féminine, l'Union des femmes burkinabées, l'UFB, afin de supplanter la Fédération des femmes burkinabées jugée réactionnaire. Le rêve d'une société égalitaire passe par un conflit de génération et ce sont les jeunes femmes de la toute nouvelle UFB menée par Véronique Kando qui l'emportent.
Thomas Sankara et les femmes, c'était quelque chose de spécial. Il ne le disait pas seulement dans les papiers ou dans les discours. On voyait qu'il prenait des décisions qui allaient dans le sens de l'émancipation des femmes. C'est avec lui que nous avons eu les premières femmes chauffeurs. Et il y a des femmes qui ont fait de la maçonnerie. Nous avions une qui était devenue chef d'équipe. On pouvait lui confier une maison. Elle va avec ses ouvriers et elle construit. Parce que le petit personnel au niveau de l'administration, c'était des hommes. Il n'y avait pas de femmes comme agents de liaison. Non. Mais avec Thomas Sankara, les femmes ont eu accès à ces postes-là, en plus du fait qu'il ait ouvert aussi des postes de responsabilité aux femmes.
Tout le monde était étonné d'entendre mon nom à la radio. Et c'est là aussi que j'ai su que j'étais nommée ministre du budget. Et ce ministère du budget, c'était la première fois qu'on mettait en place un ministère du budget. Sinon, jusque-là, c'était des ministères des finances, ministère de l'économie et des finances, mais pas cette appellation. Donc, le ministère qui existait à l'époque devait être scindé en deux, ministère des ressources financières et ministère du budget. Et dans la compréhension de Thomas Sankara, ce ministère des ressources financières, qui est grand et important et névralgique, il fallait en faire un ministère à part entière. Par contre, l'aspect budget qui m'a été confié, c'était de voir comment gérer de manière rationnelle les dépenses de l'État.
Recommandé au camarade président par sa promotionnaire Germaine Pitrouipa, avec laquelle elle a été active dans les mouvements étudiants, Adèle Ouédraogo est une brillante économiste doublée d'une militante. Au cadre de banque dans le privé, elle renonce à son salaire pour créer le ministère du budget sous Sankara.
Ce qui était nouveau, c'est que le budget devait être connu par tout le monde. Et ne devait pas être seulement l'affaire des techniciens. L'affaire des politiciens, il faut que le peuple sache qu'est-ce qu'on a en caisse et qu'est-ce qu'on peut dépenser. Et c'est pour cela qu'il a institué ce qu'on appelait les sessions budgétaires à la maison du peuple, avec la participation de tout le monde. Et le ministre du budget que j'étais faisait le point et la discussion était publique. ça permettait à tout le monde de comprendre. Je suis d'un ministère donné, et j'ai des propositions, j'ai des attentes, mais il faut que je connaisse la réalité, que je sache ce que l'État peut faire ou ne peut pas faire. Et ces discussions budgétaires avaient l'avantage donc d'informer et de sensibiliser surtout la population, le peuple de manière générale, sur les réalités de notre pays.
Thomas Sankara, il a insisté pour que toutes les dépenses extraordinaires soient dégommées. Et il n'y avait plus de festivités lors des grandes réceptions ici. Et les salaires étaient minimisés et les véhicules des ministres étaient des petites voitures que aujourd'hui certains beaux cuisiniers, comme on dit, ne voudraient pas acheter. Ça, on se souviendra longtemps de ces particularités de Sankara.
Avec Sankara, il fallait que les autorités donnent l'exemple, que nous soyons des modèles. Donc la modestie était prônée d'abord au niveau des premiers responsables. Je prends l'exemple de nos véhicules de service. C'était des R5, des tout petits véhicules, mais qui roulent, c'est l'essentiel. Donc tous les ministres, y compris le président lui-même, avaient une Renault R5, le véhicule du président et de l'ensemble des ministres.
Est-ce que vous conduisiez votre véhicule vous-même?
Non, on avait des chauffeurs. Mais à la différence des autres, où le ministre est assis derrière, à droite du chauffeur, nous étions devant avec le chauffeur.
Adèle Ouédraogo, ministre du Budget, Véronique Kando, secrétaire générale de l'Union des femmes burkinabé, Germaine Pitrouilpa, haut-commissaire du Kuritenga, elles sont dans la marche du monde pour témoigner de leur révolution Sankara. Nous les retrouvons juste après les infos sur RFI.
L'impérialisme, les maris qui battent les femmes, les maris qui torturent les femmes, la patrouille, la mort.
14 heures de travail quotidien, une espérance de vie de 32 ans. La femme africaine fournit près de 80% du travail agricole, ainsi que la moitié des prestations nécessaires à l'alimentation. Ces femmes s'occupent tout à la fois des enfants, du ménage, du ramassage de bois, de l'eau à chercher à des kilomètres de distance, de la nourriture de la famille, du champ du mari et de leur champ personnel. Nous sommes bien loin de l'image d'Épinal, de la joie de vivre dans la brousse. Sans l'éducation des femmes, point de salut. C'est en tout cas la conviction du gouvernement Sankara qui multiplie les initiatives destinées à changer les mentalités. Peu d'argent au Burkina Faso, mais des idées. Après la semaine de la femme, la journée du marché obligatoire pour l'homme et la charte de la famille, la télévision locale lance les colombes de la révolution. Pourvu que le gouvernement ne les laisse pas tomber.
Être une femme libérée, tu sais, c'est pas si facile, ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée, tu sais, c'est pas si facile. Au fond de son lit, un macho s'endort, qui ne l'aimera pas plus loin que l'aurore. Mais elle s'en fout, elle s'éclate quand même, et lui ronronne des tonnes de je t'aime. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. Être une femme libérée, tu sais c'est pas si facile, ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée, tu sais c'est pas si facile.
Non, madame, les mauvais maris, les mauvais maris, les paresseux, les voleurs.
Parti où la mort? Parti où la mort? Parti où la mort?
Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile.
Nous devons mener le combat.
La marche du monde. Valérie Nivelon.
Suite de votre émission consacrée chaque semaine aux femmes et aux hommes, témoins et acteurs de l'histoire. Une émission enregistrée au Burkina Faso.
Ne pensons pas qu'il soit normal qu'un homme, pour aller travailler et gagner son salaire,
laisse à la maison une femme et des enfants. Une femme qui est obligée de balayer, laver le linge, faire la cuisine, servir le repas et qui en retour n'a absolument rien.
Cette question des femmes pendant la Révolution, portée à bras le corps par Thomas Sankara, c'est de montrer que les femmes que nous étions étaient capables et n'arrêtaient pas à chaque occasion de rappeler que la femme n'a pas la place qu'elle mérite. Comme il disait, si nous faisions la révolution sans la moitié du peuple burkinabé, cette révolution est inachevée.
Germaine Pitrouille-Paille, notre grand témoin, nommée haut-commissaire de la région du Kouritenga par Thomas Sankara en 1984, elle revient 30 ans après sur son expérience dans le chef-lieu de Koupéla, dans le Kouritenga, la province du centre-est qu'elle a administrée. En tant que femme de la Révolution, elle nous livre son expérience.
Tous les trois mois, Thomas nous réunissait, donc tous les hauts-commissaires, avec tous les membres du gouvernement pour discuter, recevoir nos difficultés, et puis nous dire, bon, voilà ce que le CNR, donc la Révolution, attend pour les prochains mots d'ordre. Et nous avions la primeur et nous échangeons pour dire que certains mots d'ordre, bon, peut-être qu'il faut beaucoup plus d'explications en direction des populations. Par exemple, les fonctionnaires au champ. Bon, ils nous disaient que nous avons un relais formidable qui était les CDR et que nous devons nous appuyer sur ces CDR-là pour justement avoir la réaction des populations vis-à-vis des mots d'ordre qui étaient lancés.
Le préfet de Basse-Coulée.
Vébama Ambroise.
Le préfet de Basse-Coulée.
C'est elle qui m'avait nommé préfet à Basse-Coulée. Hein? Germaine Pitrouille-Paille était formidable avec nous. Elle était courageuse, elle aimait le travail. Et un jour, elle nous a dit, « Ah, c'est venu. La révolution est venue. Il faut la suivre ou la laisser. Mais je suis là. Ce que j'investis, ça c'est un acquis pour vous. Donc, si vous laissez tomber, c'est vous qui serez en arrière. » Et elle nous a encouragés comme ça. Et puis vraiment, on s'est liés autour d'elle pour que notre province aille de l'avant.
Basse-Coulée, Kando, il n'y avait pas de préfet. Comment on approche les populations de Basse-Coulée? En leur donnant un administrateur et il a fait son boulot.
Avec Pitrouille-Paille, pendant la révolution, ce qu'on a pu faire, c'était d'abord mobiliser les gens qui ont construit des bureaux, des logements qui existent aujourd'hui. Elle s'est intéressée aussi à l'éducation. C'est elle la première à ouvrir une garderie à Koupéla. Aujourd'hui, l'État est venu reprendre les travaux et c'est la première école maternelle de Koupéla et elle fonctionne toujours. Elle nous a aidé à construire le lycée de Koupéla, le lycée de Poutenga, qui aujourd'hui sont des grands lycées. Bon, il y a les salles de ciment. Bon, c'est là aussi on a construit, mais ça a échoué. Il n'y a pas eu de suivi. Voilà, il y avait des contre-révolutionnaires.
Je sais que celui-là, je l'ai renvoyé à Oran. Parce qu'il se comportait comme un commandant de cercle. Il faisait tout pour ralentir l'avancement des travaux populaires de développement.
Pour ce qui concerne les dépenses, le ministère de l'Éducation nationale était un ministère sur lequel il fallait mettre l'accent. Parce qu'on voulait faire l'alphabétisation. Il fallait donc que tout Burkinabé et une base minimale, si vous voulez, de scolarité, qu'il puisse s'exprimer et dans sa langue, qu'il puisse comprendre même sa langue, la transcrire ou écrire sa langue en fonction de ses activités. Donc l'accent était beaucoup mis sur l'éducation, également sur la santé. Je prends l'exemple des fonctionnaires, on a dû à créer spécialement une structure pour gérer la santé des fonctionnaires, l'OST qui existe jusqu'à présent. Donc ça a été créé au moment de la Révolution.
Budget. C'est ainsi que Thomas Sankara surnomme avec humour Adèle Ouédraogo, première femme ministre du budget au Burkina Faso. Une militante acquise à la cause de la Révolution depuis son engagement syndical aux côtés de Germaine Pitrouille-Paille. Mais une fois au pouvoir, comment faire passer les messages de la Révolution aux 8 millions de Burkinabés majoritairement analphabètes? Comment sensibiliser les femmes afin qu'elles s'organisent et s'émancipent? C'est un défi relevé par Véronique Kando, secrétaire générale de l'Union des femmes burkinabées, l'UFB, créée spécialement par le gouvernement Sankara pour conscientiser les femmes.
Il y a eu beaucoup d'alphabétisation au niveau des femmes. Et nous autres, on parle dans nos langues. Quand Thomas Sankara, par exemple, donne un message, si le message est en français, et que c'est quelque chose qui est porté par les femmes, et quand nous allons vers les femmes, nous ne parlons plus de ça en français. Nous parlons dans nos langues, en moré, à Ouagadougou, c'était principalement le moré. Moi, je parle également le djoula, dans la région de Bobo, avec lesquelles on a pu échanger avec les femmes. Donc, le message passait bien. Donc, il n'y avait pas de problème de communication en tant que tel. Et vous avez des femmes responsables qui dictaient des textes en langue traditionnelle. Il y avait une des responsables dans une petite ville à côté qui s'appelle Yako. Elle n'était pas allée à l'école, mais les décisions que la structure prenait, elle les dictait parce qu'il y avait eu la formation en langue morée, l'alphabétisation et tout. Elle disait ce qu'elle voulait et ça se notait.
Camarades, les mauvais maris, les mauvais maris, les paresseux, les voleurs, les voleurs.
Sankara s'en prend violemment aux hommes. Fougueux et frontal, le jeune capitaine remet en question les fondements mêmes de la société traditionnelle. Il s'implique personnellement dans le combat pour l'émancipation des femmes. C'est une priorité énoncée dans le DOP, le discours d'orientation politique, véritable bible de la révolution, rédigé par l'intellectuel Valère Sommet.
Thomas Sankara n'hésitait pas à dénoncer les couples, à montrer les maris pourris, les maris phallocrates, dans ses discours, ils n'hésitaient pas à attaquer des problèmes conjugaux et toujours à culpabiliser les hommes. Bon, ce qui fait que les hommes écoutaient ça en étant dans leurs petits pieds. Et comme il avait le verbe. Et puis c'était un homme médiatique, il savait jouer sur l'imagination des hommes, sur la mentalité. Il maîtrisait l'art de communiquer. Et en tout cas, tous les problèmes qu'il y avait trait au couple, il n'hésitait pas à les aborder publiquement. Lui-même, parfois, il s'auto-fustigeait. Il ne se prenait pas pour un modèle parfait, mais il affirmait qu'il avait une volonté de se dépasser lui-même. Il invitait les hommes donc à se dépasser.
J'avoue que dans mon propre ménage, je ne sais pas si je donne un bon exemple, je ne sais pas. Nous faisons un peu tout. Ma femme fait le ménage, moi aussi je fais le ménage. Nous sommes tous les deux fonctionnaires. Elle va au travail, moi aussi, nous revenons. Mais surtout, j'insiste, ce n'est pas évident qu'un homme accepte que sa femme sorte à 17h pour aller à une réunion et puis qu'elle revienne très tard, la nuit, 20h, 21h. Bon, ça nous choque, ça nous révolte. Et puis, nous avons été éduqués dans une société où l'homme est supérieur à la femme. C'est ce qu'on nous a dit dès notre enfance. Nos mamans nous ont éduqués comme ça. Bon, alors, il y a tout un travail qui est très difficile. Nous essayons de faire comprendre aux femmes aussi qu'il faut respecter les hommes pour que la situation se fasse en douceur. Il ne faut pas les choquer. Ça demande beaucoup de tact, hein, de part et d'autre. Ce n'est pas aisé. Et je dois dire que nous voyons parfois des succès, mais nous voyons parfois des échecs très lamentables. Il faut insister, insister, insister. Et ce n'est pas aisé du tout.
Pour améliorer la condition féminine, la Révolution préconise l'abolition du mariage forcé et de la dot en tant qu'institution obligatoire. La Révolution recommande la monogamie et le droit à la succession pour les veuves, ainsi qu'une éducation sexuelle de masse afin de planifier les naissances. Autant d'objectifs à atteindre pour l'UFB et sa secrétaire générale Véronique Kondo.
C'est une question qui n'a pas été facile au niveau des femmes, parce que dans leur propre mentalité, avoir des enfants, c'est un don de Dieu. Surtout quand elles sont dans un foyer polygame, ça, il faut le dire, ça devient un peu comme une concurrence qui accouche plus que qui. Et donc, dans un tel contexte, ce n'était pas du tout évident d'espacer les naissances. Donc, la première des choses, c'était de faire comprendre aux femmes elles-mêmes que la contraception était quelque chose de vital pour elles. Celles qui ont compris et qui voulaient rentrer dans ce processus, beaucoup aussi ont rencontré des problèmes avec leur mari. Et je me rappelle, il y avait des femmes qui faisaient la contraception à l'insu de leur mari à l'époque. C'était surtout la pilule, mais je répète, j'en ai connu plein qui prenaient la pilule à l'insu de leur mari.
Peur de la réaction du mari, peur de la famille, peur des chefs coutumiers, les femmes, pour s'émanciper, doivent braver l'ordre établi. Entre éducation et sanctions, la Révolution veut accoucher d'une femme nouvelle par le biais de ses hauts commissaires, comme dans le Kuritenga de Germaine Pitroipa.
Concrètement, au niveau de l'excision, je pense que la Révolution était en avance. Moi, par exemple, ici, au Kuritenga, pour faire passer ce message, je faisais le tour des provinces et je tenais des meetings sur le sujet de l'excision, montrer les dangers et les risques que les exciseuses prenaient, parce que après explication, on pouvait prendre des sanctions contre ces exciseuses-là. Mais notre rôle était, en tant que haut commissaire, c'était de faire prendre conscience à la population que cette pratique, tout en prétendant être coutumière ou traditionnelle, n'avait rien de traditionnel, mais plutôt une habitude qu'on a du mal à abandonner et que la coutume n'a jamais indiqué nulle part qu'il fallait exciser les filles. Moi, ma maman appartient à une ethnie où il est interdit d'exciser chez les Onadja. Et il y a d'autres ethnies où aussi c'est interdit au niveau du gourma d'exciser. Et ces femmes, et ma maman fait partie de celles qui, forcément, n'encourageaient pas l'excision de ses filles.
Donc votre maman, finalement, était aussi une révolutionnaire?
Par son ethnie, elle était une révolutionnaire. Elle n'a pas été excisée parce que son ethnie interdisait. Elle n'a jamais, à ce que je sache, encouragé qu'on nous excise. Et c'est vrai qu'il y avait des choses qu'on apprenait qu'au cours de cette excision, que les mamans ne donnaient pas comme information aux filles. Mais cela n'explique pas qu'on inflige une si atroce douleur pour pouvoir passer de l'adolescence au stade de femme.
Vous savez, en matière de réflexe culturel d'un peuple, vous ne pouvez pas décider contre la volonté d'un peuple. Vous pouvez dire aux gens, il est interdit de chanter telle chanson. D'accord, dans la rue, ils ne vont pas le chanter, mais en cachette, ils vont chanter ça. Vous pouvez interdire une religion, mais les gens vont se cacher pour pratiquer cette religion. Dans les pays où on essaie d'interdire les films, les livres pornographiques, les gens se cachent pour pratiquer la pornographie. Au contraire, il faut éduquer librement les gens. Et s'ils l'acceptent, il n'y a pas de problème. Et ils y mettront fin.
Passer la surprise et le scepticisme, au fur et à mesure que nous avions des discussions avec ces femmes, les choses se passaient mieux. Je donne l'exemple d'une exciseuse à Tinsobentenga, un des départements de Kupela, où à la fin de l'année 87, elle a décidé de ne plus exciser. N'importe qui n'était pas exciseuse non plus. Donc, dans cette partie du département, les filles n'étaient plus excisées parce qu'elle, elle avait décidé qu'elle n'excisait plus. Ça aussi, c'est l'effet du travail d'information, de conscientisation et la menace, bien sûr, de sanctions.
L'excision des femmes, par exemple, nous avons mis fin à cela. Mais c'est parce que notre peuple est d'accord. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de vieilles femmes qui veulent encore pratiquer l'excision. Il y en a, mais elles ne trouvent plus de jeunes filles pour faire l'excision. Donc, elles tombent dans l'obsolescence, leur travail devient inutile.
Thomas Sankara a parlé de l'excision, mais il s'est battu aussi dans le domaine de la prostitution. Et là, il avait tenté une réinsertion au niveau des prostituées. Voilà un homme qui s'est dit, non, il y a des raisons, il y a des causes profondes à la prostitution. Et donc, il faut aller contre les causes de cette prostitution. Parce qu'il est persuadé qu'aucune femme volontairement ne peut, quand elle a le choix, s'adonner à une telle activité. Et là, c'est très fort aussi. Parce que, vous savez, les prostituées, les gens les mettent à l'écart. On les regarde comme celles qui sont sales, celles qui n'ont aucune morale. Mais là, elles avaient un responsable qui voyait en elles plutôt des souffres-douleurs qu'il fallait sauver.
Sauver les femmes en les émancipant, c'est la mission de Thomas Sankara. Dès 1984, il instaure la journée de la femme au Burkina Faso, jour férié et chômé. Et le 8 mars 1987, quelques mois avant son assassinat, il prononce un discours fleuve à la maison du peuple de Ouagadougou, où il rappelle avec dévotion qu'après la libération du prolétaire, il reste la libération de la femme. Il exprime alors tout son respect, son amour aux mamans africaines venues l'acclamer. Un discours marxiste, mais aussi chrétien, selon Valère Sommet, théoricien de la Révolution et compagnon fidèle de Thomas Sankara jusqu'aux derniers instants.
Notre formation a été fondamentalement marquée par le catholicisme, le christianisme. Et je reprochais justement à Thomas Sankara, quand nous étions bien sûr à deux, d'être rouge et noir à la fois. Le rouge, le révolutionnaire, et le noir, la soutane noire, donc notre éducation chrétienne catholique. Nous servions la messe, Sankara et moi, avant d'aller à l'école. J'aime à dire la différence entre un révolutionnaire et un curé. Le curé, il fait son sermon dimanche devant ses fidèles, et puis les solutions, il renvoie ça au paradis. Mais un révolutionnaire, la parole est un acte. Quand tu dénonces un mal, il faut que tu aies le moyen de le résoudre. Or, tant qu'on n'a pas émancipé économiquement la femme, si la femme n'a pas les moyens de travailler, comment peut-on leur dire de ne pas se prostituer ? Il y a ce qu'en philosophie on appelle des mots nécessaires. C'est-à-dire des mots qui minent la société. Mais il faut se donner les moyens économiques, les moyens d'abord, avant de commencer à combattre ces mots. L'exploitation de l'homme par l'homme, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on la supprime. On a besoin d'entrepreneurs, on a besoin d'ouvriers, on a besoin que les ouvriers se fassent exploiter pour que le pays avance. C'est quand nous aurons les moyens de créer les richesses nécessaires qu'on peut se dire qu'on peut supprimer l'exploitation de l'homme par l'homme. Je compare ce phénomène à la prostitution des femmes. Je m'amusais donc à dire à Thomas, il est rouge et noir à la fois.
J'insiste pour que nos enfants au moins ne soient pas éduqués dans l'esprit de le garçon est supérieur à la fille. Nous voulons qu'ils aient les mêmes droits, sans différence de sexe. Si chaque femme éduque son enfant en montrant que les sexes sont égaux, c'est bien. Mais généralement, ce sont les mamans elles-mêmes qui disent « Toi, tu es garçon, tu dois aller faire telle chose. Toi, tu es fille, voilà des poupées pour toi. » Je crois que c'est le plus important. Ce sont les femmes qui peuvent transformer le monde.
Les ambitions de la révolution portées par Sankara n'ont d'égal que ses difficultés, qu'elles soient au commissaire, ministre ou CDR, c'est-à-dire membres des comités de défense de la révolution, les femmes du tout nouveau Burkina Faso ont dû composer avec les hommes.
Bon, vous savez, on ne peut pas faire quelque chose sans l'avis de son entourage. C'est parce que mon mari a été d'accord que j'ai été CDR. S'il s'était opposé, je n'allais pas l'être. Donc, bon, il m'a dit si c'est pour aller travailler, je n'en disconviens pas. Et en tout cas, il ne m'a pas interdit de travailler, d'aller travailler. Non, non, non.
Et que faisait votre mari à l'époque?
Mon mari était inciteur, mon feu mari était inciteur. Malheureusement, il est décédé en 2013.
Quand on est responsable dans ce cas de la révolution...
Adèle Ouédraogo est alors ministre du budget.
Vous n'êtes pas forcément accepté. Bon, dans les ministères, il y a des fonctionnaires qui ont un certain âge par rapport à vous. C'est comme si la révolution était portée par les jeunes. Donc, les anciens moins motivés, moins enthousiastes, bien sûr. Il fallait faire avec ça. Pourtant, ce sont des techniciens de vos ministères. Il fallait travailler avec eux. Et aussi, en tant que femme, bien sûr, vous savez, vous restez une femme, comme on dit. Donc, ça aussi, quelque part, vous le ressentez. Vous le ressentez. Mais personnellement, ça ne m'a jamais ébranlé. Toute difficulté, on peut le surmonter dès lors qu'on est engagé, dès lors qu'on peut demander des conseils à des camarades, dès lors qu'on vous fait confiance. Et vraiment, Thomas Sankara faisait confiance à son équipe. Et tout ça, c'était une sorte d'émulation pour aller de l'avant. Je voyais qu'en tant que citoyenne, je devais contribuer à ma manière au développement économique de mon pays. Et c'était ça qui me guidait essentiellement et qui me faisait surmonter les autres difficultés par ailleurs.
La révolution est victoire. L'échec appartient à la réaction et à la contre-révolution. Camarades, les élèves réactionnaires, les élèves indisciplinés et paresseux, les professeurs carents,
les vomissures de la contre-révolution.
Ah ah.
Les vipères qui s'infiltrent dans nos écoles.
Ah ah.
Les pentades orgueilleuses.
Ah ah.
Les hiboux au regard gluant.
Ah ah.
Abba, Abba,
Abba,
Abba. Merci camarade.
Des comportements antirévolutionnaires devaient être sanctionnés. Je prends l'exemple des fonctionnaires qui abandonnaient leur poste de travail pour lequel ils sont rémunérés et qui allaient mener leurs activités privées. C'est inadmissible, les statuts de la fonction publique, les statuts de l'administration sont clairs. Quand un contrat qu'on signe avec l'État, si on ne le respecte pas, on doit être sanctionné. Voilà pourquoi certains étaient dégagés pour malversation, pour X raisons. Bon, certainement que beaucoup l'ont mérité. Bon, d'autres, des erreurs ont pu être commises, bien sûr, pour certains. Mais la révolution aussi, ce n'est pas un long fleuve tranquille. La révolution, elle peut se tromper. Et la seule chose que nous devions accepter, c'est de reconnaître nos erreurs et de les corriger.
Consciente des bouleversements engendrés par les décisions autoritaires du gouvernement de Thomas Sankara, Germaine Pitruipa demande à l'ancienne CDR Marie-Thérèse Sandouidi de bien vouloir évoquer le drame qu'elle a partagé avec de nombreuses familles de fonctionnaires. Pour avoir fait la grève, son mari a été considéré comme un contre-révolutionnaire.
La révolution a été un peu dure. Pas au Kuritenga seulement, mais partout. Et moi, ce qui m'a de plus frappé, c'est le licenciement des enseignants. Quand les enseignants ont grévé, ça a été dit qu'on allait les licencier, mais personne n'y croyait. On ne s'attendait pas à ce que ça soit une réalité. Mais quand ça a été la réalité, je ne sais pas ailleurs, mais au Kuritenga ici, il y a des enseignants qui ont laissé leur famille. Il y a des femmes qui ont quitté leur mari. Vraiment, les enseignants ont souffert. Mais quand Blaise a pris le pouvoir et à la radio, on a dit qu'on reprenait tous les enseignants qui ont grévé. Vraiment, c'était une fête. Moi, j'ai gardé ça en mémoire de la révolution. Même si la révolution était bien, ça a détruit tout ce que la révolution a fait comme positif, si vous voulez, parce que vraiment, ça secouait le monde, ça secouait tout le Burkina. Voilà ce que je voulais ajouter pour terminer mon mot. Mais en disant que pour Germaine et moi, elle a été une amie, elle a été une sœur, parce qu'elle m'a dit, Marie-Thérèse, il faut travailler. Une personne qui est en bonne santé doit travailler. Il ne faut pas dire que le travail, c'est pour les hommes. Le travail, c'est pour les hommes, c'est pour les femmes. Donc, travaillez. Tout ce que vous pouvez apprendre, tout ce qui peut vous amener à aider, il faut le faire. Et j'ai suivi ces conseils. Merci beaucoup.
Iconoclaste et terriblement lucide, le capitaine Sankara avait une vision avant-gardiste. Il considérait que la révolution resterait inachevée si elle était essentiellement celle des hommes. Valère Sommet, un de ses plus proches collaborateurs et ancien ministre de l'enseignement supérieur, évoque l'homme pressé qu'était le président Sankara.
Ce qu'on a reproché à la révolution, c'est cette précipitation, de faire les choses vite. Je fais une confidence. C'était lié à la personnalité même de Thomas Sankara. Un jour, un de ses conseillers, qui était très âgé par rapport à notre génération, Feu Alba Diallo, qui vient de mourir il n'y a pas longtemps, qui a été ministre des Affaires étrangères, ensuite qui a été son conseiller. Donc, comme il était notre aîné en âge, un jour, face à face dans le bureau de Thomas Sankara, il dit, mais comment, président, je ne comprends pas. Vous faites les choses précipitamment. Vous faites les choses comme si vous avez le feu autour. Et Thomas Sankara a posé son bic, l'a regardé en face. Il lui a dit, vous avez le temps. Moi, je n'ai pas le temps.
Sankara est assassiné le 15 octobre 1987. Mais pour Germaine Pitruipa et toutes les femmes engagées dans la révolution, il restera l'artisan de leur libération.
Les femmes ont ressenti Thomas comme étant leur représentant auprès de tous les hommes. C'est-à-dire, c'est le défenseur acharné de la cause de la femme. les femmes africaines, Myriam Makeba, les Tchalamwana, etc., etc., montraient qu'un des chefs d'État qui défend leur cause, c'était Thomas Sankara. Notamment Myriam Makeba, qui n'a pas arrêté de le répéter jusqu'à sa mort, en disant qu'elle a rencontré dans sa vie un homme qui défend la cause de la femme, c'était Thomas Sankara, du Burkina Faso.
Sankara, président des femmes, n'hésitez pas à réécouter les deux épisodes sur RFI.fr, émission La Marche du Monde, réalisée par Cécile Pompéani et enregistrée au Burkina Faso. Merci pour vos nombreux messages sur le Facebook de La Marche du Monde. Écrivez, podcastez, cette émission, c'est la vôtre.